Jean 5. Allez-y, madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand, est-ce qu'on fait dans les épargnes ?
Non.
Oui, mais pour les recompter
non,
après.
Ça,
un laissant et on retrouve l'eau. D'accord.
Ça fait 7 pour tirer. Et 20h, le scrutin est clos.
Et en cette avant-veille d'élection présidentielle, nous remercions Marie-Dominique Even, chargée de recherche au CNRS et membre du groupe Religion, Société et Laïcité, de nous emmener très loin de notre Europe occidentale, très loin du 21e siècle, pour nous parler d'élections. Bonjour Marie-Dominique Even, vous êtes spécialiste de Mongolie et d'histoire de la Mongolie.
Oui, bonjour. Oui, on sait que les sources nous indiquent que les grands khans mongols étaient élus lors de grandes assemblées. Les populations des steppes, en fait, qui furent, on le sait, à l'origine de nombreux royaumes et empires, avaient coutume en effet d'élire leurs chefs à l'occasion de conseils tribaux, conseils de famille, qui réunissaient les principaux représentants du groupe. Ça peut être les anciens du patrilinéage, les chefs des tribus composant une confédération, la parenté du Khan. Selon leur degré d'organisation, ces groupements, ces structures menaient des entreprises collectives de plus ou moins grande ampleur et durée. Par exemple, ces grandes battues, ces grandes chasses qui pourraient durer des mois, la décision de migrer vers d'autres territoires, des raids, des campagnes guerrières, la question de partager les pâturages. Et tout ça demandait de se doter de façon ponctuelle ou permanente, selon la structure, de chefs qu'on désignait aussi de manière collective. Les compétences, les qualités personnelles étaient un critère important dans le choix, auquel bien sûr s'ajoutait celui de sa légitimité à être élu. Ces activités menées ensemble supposaient une prise de décision conjointe des représentants du groupe, puisqu'ils partageaient les risques, mais aussi les fruits de ces entreprises collectives. Partager le butin de chasse, le bétail ou les captifs pris lors des raids, les richesses accumulées lors des conquêtes. Dans l'Empire mongol, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'entreprendre des conquêtes lointaines, on pense par exemple à ces conquêtes qui ont mené les Mongols à la porte de l'Europe, l'affaire était d'abord discutée lors d'un conseil ou assemblée qu'on appelait un mongol khoreltay, et chaque branche du lignage présent et qui décidait devait aussi fournir un certain nombre de troupes et aussi de ce que les Mongols appelaient les fils, c'est-à-dire en fait les jeunes princes gingiscanides. D'où cette conception en fait des populations des steppes et des Mongols aussi, que l'Empire, les sujets, les territoires sont la possession conjointe du lignage royal et non pas celle du seul Khan et qu'ils se partagent. D'ailleurs, Chinggis Khan, avant sa mort, avait réparti les troupes et les principaux territoires de l'Empire entre ses fils et, dans une moindre mesure, ses frères. La nature collective de ces structures, au départ du moins, les rassemblements parfois limités dans le temps, s'accordaient mal avec un système de succession stricte, de monarchie héréditaire autocratique comme on en trouve chez les voisins des steppes. Des voisins sédentaires des peuples des steppes. Les Khitans, par exemple, un peuple qui a précédé les Mongols dans les steppes et en Chine du Nord, qui était très proche au plan linguistique, était constitué de 8 tribus. Et leur chef est élisé, nous disent les sources chinoises, tous les 3 ans, l'un des leurs, comme chef suprême. Un autre type de succession, de système de succession commun aussi, c'était le fait de faire succéder au Khan son frère cadet avant de faire succéder son fils. Ces modes de succession rendaient en fait plus difficile la confiscation du pouvoir par une branche ou par un chef à son seul profit. La pratique et donc l'institution qu'est l'élection du Khan chez les Mongols découle de cette conception collective, lignagère du pouvoir qu'ils avaient. On recherche un consensus, mais aussi on fait une démonstration de force. Les partis, les différents représentants, les branches viennent nombreux avec les troupes. D'ailleurs, les Mongols ont dégarni leur front quand il s'agissait d'aller précipitamment en Mongolie, retourner et participer à l'élection du Khan. C'est ainsi que les Mongols ont eu leur première grande défaite en Palestine, à Naïn Jalout. Ils étaient partis et les Mamelouks en ont profité. Avant qu'un consensus soit atteint entre les principaux électeurs, dans le cas des Mongols, c'est les 4 lignages issus des 4 fils principaux de Chinggis Khan, l'interrègne peut être prolongé. On a vu que, par exemple, pour l'élection de Gojuk Khan, le 3e successeur, ça a duré 5 ans parce que sa mère, la régente, avait tenté a réussi d'ailleurs à modifier le choix qu'avait fait le Khan défunt et à le faire porter sur son propre fils. L'élection se déroulait, nous racontent les sources, en deux phases qui pouvaient durer plusieurs jours ou semaines. La première phase était vouée aux délibérations, puis à l'acclamation du Khan qui avait été élu. L'autre, dans un autre lieu, était dédiée à l'intronisation très solennelle du nouveau Khan et au témoignage d'obéissance et de loyauté que les sujets et les différents donc lignages qui avaient participé lui devaient désormais. L'élection de Mönke, l'empereur Mönke en 1251, raconté par un témoin persan, nous montre aussi que le candidat devait d'abord refuser par modestie le choix qu'on avait fait, ce qui donnait alors l'occasion de rappeler toutes les qualités de l'élu. Son expérience du commandement, sa renommée acquise dans les banquets, force, sa sagacité, sa ruse, son courage, et aussi en particulier sa bonne connaissance des lois et des règles de Chinggis Khan, celle qu'il avait édictée, son fameux Yasa, et de son successeur Ögödei. Les discussions pouvaient durer des jours, des nuits entières, entrecoupées de nombreux banquets. Et parfois, lorsqu'il y avait des élections, on pouvait avoir, dans des conflits, deux élections qui se déroulaient par deux rivaux. Et c'est ainsi que Kubilai, par exemple, s'est fait élire de son côté alors que son frère avait de son côté, lui aussi, s'était fait élire. On sait, du fait de la renommée de Kubilai, qui a gagné. On est donc dans un processus délibératif, mais qui porte sur un nombre limité de prétendants et qui est le fait d'une minorité d'acteurs prédéfinis par la naissance ou par le rang. Et ça ne met pas forcément fin à la survenue de conflits ou à la confiscation du pouvoir au profit d'un prétendant et de ses descendants. C'est ce qui est en fait arrivé ensuite avec les Mongols et les descendants de Kubilai.
Merci beaucoup Marie-Dominique Even. Et puis on retiendra donc cette idée que celui qui a été élu peut refuser par modestie dans un premier temps son pouvoir, et on verra si celui ou celle qui est élu dimanche fera de même. Je ne sais pas, on pourrait se poser la question. Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc pour ce petit précis d'histoire à l'usage des candidats et des politiques, des pratiques d'élection donc chez les grands khans en Mongolie. Merci beaucoup.